Ça va commencer. Voilà, ça marche. Merci de m'avoir rappelé ça. Mais je disais donc que c'est un terrain miné. Un terrain miné et qu'il ne faut pas attendre de ma part les réponses que je ne suis pas capable de donner. En fait, je veux dire, ici, on fait un module d'histoire. Donc, un module d'histoire, ça veut dire que je vais regarder en arrière, voir un peu comment c'est. Si ça nous aide à réfléchir, tant mieux. Si ça ne nous aide pas à réfléchir, bah, je dirais c'est dommage, parce que ça veut dire qu'on a perdu notre temps. Mais le fait de regarder en arrière, ça aide à, pas forcément à décider, mais à voir un peu comment les choses se sont passées. Donc pour moi, ça veut dire que je n'ai pas forcément tellement l'intention d'entrer dans des questions, je ne sais pas, je dirais, disons, idéologiques. Peut-être que. Des choses qu'on peut toucher, mais. Et quand je dis ça ne veut pas dire que l'histoire de l'Église a pour but de défendre toujours ce qu'a fait l'Église, parce que ce n'est peut-être pas mon problème, en fait. Le problème, c'est plutôt de comprendre comment, dans une situation donnée, des gens ont raisonné, qu'est-ce qu'ils ont inventé, qu'est-ce qu'ils ont. Peut-être parfois, qu'est-ce qu'ils ont raté, parce que ça marche aussi. Et après, on pourra éventuellement faire des jugements sur notre époque, mais voilà. Alors, terrain miné. Je peux donner. Des exemples assez gros, en partant peut-être sur des exemples actuels, parce que je sais bien que c'est des questions qui se posent, et puis sur lesquelles, en fait, je n'ai pas tant de réponses que ça. Du genre, pourquoi les femmes ne peuvent pas aller le prêtre? Ok, c'est vrai. Bah oui. N'empêche que la question ne s'est pas vraiment posée dans l'histoire, donc je ne vais pas vous en parler. Puisque même dans le protestantisme, il n'y a pas de femme pasteur avant la fin du XIXe siècle. Donc ça veut dire que la question ne se pose pas en fait. Alors, on peut réfléchir après sur le fait que la question ne se pose pas, mais comme moi je préfère partir d'exemples un peu concrets, j'ai du mal à dire autrement. Voilà. Ce que je dis là vaut également d'une deuxième question qui est très différente, en fait, qui est pourquoi les femmes ne peuvent pas être évêques? Pourquoi c'est très différent? Parce que quand on est avant Vatican II, un évêque, ça n'a pas, c'est pas d'abord quelqu'un qui. Et le titulaire d'un sacrement. Un évêque, jusqu'à la fin du XIXe siècle, c'est d'abord quelqu'un qui a une puissance de juridiction. Ça, c'est important. Tour du coup, même si la question sacerdotale n'est pas possible pour les femmes, on pourrait très bien imaginer qu'il y ait des femmes qui soient évêques. Bien, ça tombe bien, parce qu'on va en rencontrer. On va en rencontrer dans un cas mineur. Ça mineur. Et alors, quand c'est mineur dans l'histoire de l'Église, on doit toujours se poser la question en se disant, mais pourquoi ça n'a pas pris, en fait? Pourquoi ça n'a pas fait école, alors que c'est mineur et que ça existait? Voilà. Troisième cas, exemple de question contemporaine, qui est, à mon avis, plus idéologique ou se pose de manière différente. Pourquoi les femmes ne commandent-elles pas? Poser la question, si vous voulez, carrément en termes de pouvoir. Alors, bon. Ce qui est très amusant, mais je vous dis ça vraiment entre nous. Hein. Ma mère, qui n'est pas du tout chrétienne, mais alors vraiment pas du tout, m'a dit un jour ceci. Elle était prof. Elle m'a dit de toute ma carrière professionnelle, les pires proviseurs que j'ai eus étaient toutes des femmes. Parce qu'elles avaient toutes besoin de faire sentir leur pouvoir. C'est assez intéressant de réfléchir. Voilà. Mais bon, on peut poser la question quand même sur la question de l'exercice du commandement. De fait, bon, je pourrais donner des exemples de femmes qui commandent. Il y en a une parmi nous, puisque c'est la présidente du CHI. Mais je pourrais donner des exemples dans l'histoire, peut-être de manière plus forte. Voilà. Mais en tout cas, c'est des exemples qu'on peut poser, qu'on peut réfléchir. Voilà. Mais moi, je n'ai pas très envie de rentrer là-dedans, parce que, en fait, on risque d'avoir des biais. Vous voyez? Et le vrai problème quand on étudie l'histoire, c'est le biais, en langage savant, on appelle ça le biais cognitif. C'est-à-dire que je suis biaisé par ce que je suis. Et que ce que je suis m'empêche, en fait, de voir tel ou tel aspect de la réalité. C'est pour ça que, pour moi, l'histoire, c'est une discipline qui est aussi importante que l'ethnographie, vous voyez, ou que tout ce qui est la rencontre de l'autre. Là, pour dire autrement, l'actuel directeur de la faculté d'histoire, du département d'histoire à l'Institut catholique de Paris, qui est un prêtre de la communauté Saint-Martin, dit ceci. Il faudrait que beaucoup plus de chrétiens fassent d'histoire parce qu'en faisant de l'histoire, ils arriveront à commencer à écouter quelqu'un d'autre. voyez, et pas simplement à s'écouter soi-même. Alors, je commence avec mes exemples. OK. Alors, le problème des exemples, voilà, que j'ai donnés, c'est qu'en fait, on parle en termes de privilèges. Vous voyez, vous dire pourquoi je restreins ceci à cela. OK, ça c'est une réflexion, si vous voulez, de nature, hein, disons, philosophique. Alors, la réponse officielle de l'Église, si je puis m'exprimer ainsi, elle se situe du côté de la nature. Alors, moi, je ne suis pas philosophe, donc vous demanderez aux philosophes comment ils réfléchissent, mais de la nature. Alors, vous voyez, c'est très simple. Hein. Je vous donne de manière un peu bête. Hein. De la même manière que les hommes ne peuvent pas éprouver la grossesse, je crois qu'on sera à peu près tous d'accord, en dépit de certaines idées contemporaines sur la question, eh bien, de la même manière, les femmes ne peuvent pas être prêtes. Voyez, on peut répondre du côté de la nature. On peut répondre du côté de la convenance. Alors, c'est pareil, c'est des questions qui, au niveau contemporain, sont un peu difficiles. Mais voyez, par exemple, on pourrait dire, de même que dans la danse, chose que je me garderais bien de pratiquer, que dans la danse, les rôles sont bien répartis, puisqu'il y a un rôle masculin et un rôle féminin. Et bien, de la même manière, c'est pareil dans l'Église. Voyez. Et ça vous donne un peu les deux réponses habituelles. OK. Mon objet ici, ça serait plutôt de dire qu'un peu de culture historique, c'est pas inutile. Voyez, parce que quelque part, en fait, mon sujet déjà, il est faux. Voyez, la place de la femme dans l'Église, je sais pas ce que ça veut dire. Si on est en ecclésiologie, voyez, si on est en théologie, on pourra réfléchir sur les fondements. Moi, je suis en histoire. Alors, l'histoire, c'est une discipline servante. C'est une discipline expérimentale, voyez, parce qu'elle regarde le passé et essaye de l'expliquer. Ça veut dire que on aura tout de suite énormément de mal à essentialiser les choses. Alors, tout ça pour dire que j'ai pas la prétention, en 10 heures, de résoudre un problème vaste. Moi, je voudrais simplement voir ce qui s'est fait ici ou là, et parfois ce qui a été raté ici ou là. Voyez, c'est plus comme ça. Avec bienveillance, en fait. C'est pas simple. Hein. Bon. Quand j'étais prof d'histoire à la fac, c'était assez amusant. Je me souviens d'une étudiante de première année de fac qui devait travailler sur la politique étrangère de Louis XV, sujet comme ça. Et je me souviens que son exposé avait dit les choses de manière suivante. Donc, en gros, sa conclusion était, ben, Louis XV est vraiment pas doué parce qu'il aurait dû faire ceci et faire cela. Et moi, je me rappelle que je m'étais obligé de lui répondre, ben, mademoiselle, je voudrais bien vous y voir, être à sa place, en fait. Voyez? C'est-à-dire que l'a priori de bienveillance, c'est de considérer que celui qui est dans le passé, OK, il a pu se tromper, c'est possible, mais il avait peut-être plus d'éléments pour se décider que nous. Alors, ça, c'était pour mon terrain un petit peu miné. Je ne sais pas s'il faut le déminer, mais en tout cas, il faut arriver à réfléchir, disons, de manière paisible. Alors, ce que maintenant je voudrais faire, c'est deux petites choses. Une première chose, eh bien, de partir de la théologie, en fait. Parce que vous voyez, quand on fait un cours d'histoire aussi, on fait un cours d'histoire, mais cette histoire, elle interagit quand même avec la théologie, au sens où elle interagit avec notre foi, et qu'en l'inverse, j'espère que ça nous aide aussi à réfléchir à la foi. Alors, le problème, c'est que parler d'hommes et de femmes, c'est poser un problème d'anthropologie théologique qui est loin d'être simple. Mais vraiment loin d'être simple. Si je le résume, ce problème, ce sera ça. Selon la foi chrétienne, y a-t-il, oui ou non, une différence entre l'homme et la femme? En fait, c'est ça la question. Selon la foi chrétienne, y a-t-il, oui ou non, une différence entre l'homme et la femme? Que vous pouvez poser de deux manières. La première manière, vous pouvez la poser de manière, disons, j'allais dire strictement anthropologique. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a vraiment une différence entre un homme et une femme? Oui, bah oui, quand même, parce qu'il y a une différence physiologique qui est quand même difficile à nier. Mais est-ce que cette différence physiologique a des conséquences? Ce serait plutôt comme ça qu'on dira les choses. À titre personnel, et ce n'est pas simplement une question de foi, c'est aussi une question d'expérience, je pense que oui. Je remarque, alors c'est un peu grossier ce que je dis, mais que les confessions d'hommes et les confessions de femmes, ce n'est pas pareil. Vous voyez? Dire comme ça, en fait. Vous voyez? C'est-à-dire que ce n'est pas la même manière de s'exprimer. Un jour, je me souviens d'une religieuse qui avait un accompagnateur spirituel qui était un prêtre et qui m'avait dit ceci. Elle n'avait pas eu le choix, son accompagnateur. Elle m'avait dit ceci. Cet homme-là, il n'a pas parlé à beaucoup de femmes dans sa vie. Et voyez, si je dis ça, cet homme-là, il n'a pas parlé à beaucoup de femmes dans sa vie, ça veut dire que je considère qu'il y a une différence entre un homme et une femme suffisante pour que je doive en tenir compte dans la manière de m'adresser à quelqu'un. Alors, si je continue à m'exprimer comme prêtre et en même temps comme prof de séminaire, si dans l'autre sens on dit les séminaires, ça ne va pas parce qu'il n'y a pas de femmes à l'intérieur, c'est exactement le même raisonnement en fait. C'est se dire, on considère que ce n'est pas pareil. Donc du coup, moi je dirais juste, d'un point de vue anthropologique, notre manière de penser tend à penser qu'il y a une différence suffisante entre l'homme et la femme pour qu'on en tienne compte. Voilà. Alors après, qu'est-ce qu'on va en tirer comme conséquence ou pas? Alors, je vais finir par arriver à l'histoire, hein, rassurez-vous. Mais de la théologie, je voudrais arriver à la Bible. Parce que bon, notre foi chrétienne et du coup notre manière de réfléchir dans l'Église, excusez-moi, s'ancre quand même sur la Bible. Alors, je commence par l'Ancien Testament. Je vais mettre, bon, vous connaissez peut-être les références, mais je vais quand même les mettre ici. La référence facile, Genèse 1, 26, 27. À l'image de Dieu, il les créa, homme et femme, il les créa. C'est là quelque chose d'assez exceptionnel, parce que dans le vocabulaire biblique, la différence de l'homme et de la femme va au-delà de la différence sexuée. Je veux dire par là que y a des lions et des lionnes, des chiens et des chênes, des chiennes, pardon, des renards et des renardes, enfin, je vais continuer avec tous les animaux comme ça. Eh bien, la différence entre le mâle et la femelle, dans le règne animal, est beaucoup plus faible que la différence entre l'homme et la femme dans la Bible. Donc, ça veut dire que le présupposé biblique, c'est que homme et femme, c'est pas pareil. Et pourtant, c'est quand même pareil. Oui, c'est ça la difficulté. Deuxième récit de la création. Genèse 18. Ça, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que la femme est différente de l'homme. Alors, après, je ne dis pas de tenir absolument tous les éléments du récit, mais elle est différente. Et en même temps, elle est semblable, parce que le cri d'Adam est quand même assez extraordinaire. Vraiment, c'est les os des os, de mes os, la chair de ma chair. Bon, rappelez-vous que quand ça marche, quand ça arrive, cette affaire, Adam a vu défiler tout le jardin zoologique devant lui. Ça veut dire que devant le jardin zoologique, il fait l'expérience que le chien, c'est pas lui. Alors que la femme, c'est presque comme lui. C'est ce que le pape François a dit. Alors je ne sais plus dans quel texte, il y a pas, enfin, l'année dernière, ou il y a 2 ans, me semble-t-il, où il a fait une petite pique sur les animaux domestiques pour cette raison-là, en fait. Disant qu'un animal domestique pouvait jamais remplacer un compagnon. Parce qu'en fait, il n'y a pas de relation véritable. Alors, deux conséquences qui commencent à être importantes pour les questions historiques. Dans la Genèse, c'est la femme qui initie la vie en société. Je ne sais pas si vous avez déjà songé à ça. Bon, le début de la Genèse, ok, j'ai un homme, et après j'ai un homme et une femme. Et alors, du coup, ça veut dire qu'à ce moment-là, on est deux. Ben, ça, c'est le début de la société. Ça veut dire que la question de la relation, elle est d'emblée pensée à partir de là. Deuxième acquis de la Genèse, c'est le nom Ève. Ève, en hébreu, ça veut dire, je vais l'écrire, Hawa, ça veut dire la mère vivante, ou la vivante, ça veut dire très exactement la vivante, je continue à écrire, et la vivante en hébreu, ça veut dire celle qui donne la vie. Alors évidemment, dans le monde actuel, dire la femme, c'est celle qui donne la vie, je vais être tout de suite accusé de défendre un modèle de la mère au foyer. Alors qu'en fait, ce n'est pas ça mon problème. Dans la Genèse, c'est une mission très haute, mais vraiment très haute. Parce que si la femme peut donner la vie, c'est qu'elle fait ce que seul Dieu peut faire. Je ne sais pas si vous vous rendez compte quand même de ça. La femme fait ce que seul Dieu peut faire. Donner la vie. Même l'homme, il n'en est pas capable. Voilà. Donc, ça la met, dans l'Ancien Testament, très proche de Dieu. Alors, dire, par exemple, que l'Ancien Testament a une vision négative de la femme, ça, c'est juste ne pas avoir lu le texte ou ne pas l'avoir compris. Alors, cette affaire-là fonde le double rôle social de la femme juive. Elle est épouse et elle est mère. Tout simplement. Et vous voyez, c'est pas parce que elle doit être cantonnée à la maison, mais c'est d'abord parce que elle l'assure dans la société ce qu'est le rôle en propre de Dieu. Conséquence inévitable. Je vais aller chercher ma Bible et on va le lire parce que attendez. Conséquence inévitable, c'est Proverbe 10, 31. Alors, cette fin du livre des Proverbes, on l'a le dimanche, une année sur trois, et je m'étonne toujours de ce que ça ne fasse jamais réagir. Alors, je vous lis la première phrase. La femme parfaite, qui la trouvera ? Et alors moi, je m'attendrais à ce que toutes les femmes de l'Église lèvent la main en disant « c'est moi ». Vous voyez, la femme parfaite, qui la trouvera ? Et alors après, j'ai un poème qui me décrit la femme parfaite. Et alors, c'est extraordinaire. Parce que, qu'est-ce qu'on nous dit ? Elle fait tout un tas de choses. C'est une femme très active, elle tisse, elle travaille, elle fait du commerce, elle distribue des aumônes, et même, qu'est-ce que nous dit Proverbe ? C'est là que le point important. Son mari a bonne réputation uniquement à cause d'elle. Proverbe 31, 10, 31. Ce qui fait la réputation d'un homme, c'est sa femme. On n'est pas du tout dans un système où la femme est sujette. Beaucoup plus que quelque chose, où, au contraire, la femme est celle qui va donner les choses. Conséquence finale dans l'Ancien Testament, c'est que la femme est la figure par excellence de la sagesse, donc la figure de Dieu. Ça n'empêche pas qu'elle n'ait pas de rôle politique par excellence, mais quand même. J'avance un petit peu. Nouveau Testament. Ah. Alors, le Nouveau Testament, lui, il invente un truc inouï. Et la chose inouïe qui est inventée par le Nouveau Testament, c'est la virginité. Dans l'Ancien Testament, la stérilité, c'est l'épreuve féminine par excellence. Parce que la femme étant mère, elle doit donner la vie. Je ne sais pas si vous vous rappelez cet épisode un peu étrange du livre des Juges, de la fille de Jephté pleurant sa virginité. Parce que son père avait fait un peu l'imbécile, il avait promis que s'il avait la victoire, il offrirait en sacrifice la première personne qu'il rencontrerait. Le problème, c'est qu'il a eu la victoire et que la première personne qu'il a rencontrée, c'était sa fille. Et du coup, elle a dû tuer sa fille. Et on a tout un passage où sa fille fait une grande lamentation sur sa virginité inutile. Parce qu'elle n'a pas rempli son rôle de mère. Donc la stérilité, c'est l'épreuve féminine par excellence. Et comment commence le Nouveau Testament ? C'est ce que nous venons de célébrer à Noël. En disant que la fécondité peut s'exprimer au cœur de la stérilité. Et vous avez les deux cousines, Marie et Élisabeth. Élisabeth, la femme stérile qui finit par donner naissance de Jean-Baptiste. La Sainte Vierge, la femme vierge qui donne quand même naissance. C'est la même chose en fait. Ça veut dire la virginité peut être le lieu d'une fécondité. Et ça vous donne, dans le Nouveau Testament, un éloge de la virginité qui est complètement absent dans l'Ancien. Je reste pour le moment dans la Bible et à un moment, je vais arriver à l'histoire. Éloge de la virginité, un grand texte en la matière, c'est la première épître de Saint Paul aux Corinthiens, chapitre 7. C'est le chapitre 7, c'est un peu une, toutes les questions de mariage. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit plusieurs choses, et au bout d'un moment, je dis toutefois aux célibataires et aux veuves qu'il leur est bon de demeurer comme moi, sous-entendu célibataire. Toutefois, s'ils ne peuvent pas se contenir, qu'ils se marient. Puisque mieux vaut se marier que de brûler. Et après, vous finissez avec un éloge de la virginité. Ce n'est pas une question de pureté. Faites attention. Ce n'est pas une question de pureté. C'est plutôt une question qui est de dire que dans l'ordre du Nouveau Testament, dans l'ordre de la grâce, le mariage devient, je ne sais pas si c'est inutile, mais en tout cas second. Mais c'est exactement ce qui est attribué comme propos à Jésus. À chaque fois que j'ose prêcher là-dessus, je me fais engueuler à la sortie de la messe, mais n'empêche que c'est marqué comme ça. C'est marqué comme ça, au ciel, on ne prend ni femme ni mari. Ça veut donc dire que les couples mariés, au décès de l'un ou l'autre, ne sont plus mariés. C'est une histoire, vous savez, du Sadducéen, une histoire complètement invraisemblable de la femme qui avait 7 maris et qui les perdait tous les uns après les autres. Vous voyez, au ciel, on ne prend ni mari ni femme. Parole de Jésus ou attribuée à Jésus, Saint Paul en parallèle. Du coup, je me retrouve avec une hiérarchie. Une hiérarchie qui est mariée, non mariée. Ça, c'est un problème complètement absent de l'Ancien Testament. Mais vous voyez, une fois que je l'ai dans le Nouveau Testament, je vais l'avoir dans l'Église. Et du coup, dans l'histoire de l'Église, cette question de marié, non marié. Chose que vous avez encore une fois dans les Évangiles. Lorsque Jésus fait son discours sur l'indissolubilité du mariage, si je puis m'exprimer ainsi, les disciples qui sont assez raisonnables lui répondent, enfin quand même, avec ton histoire, ça ne vaut pas le coup de se marier. Réponse de Jésus, vous avez tout à fait raison. Ça ne vaut pas le coup de se marier. Bon, en tout cas, c'est marqué comme ça. Alors, cette virginité, pour saint Paul, comme pour les évangiles synoptiques, n'est pas un abaissement. C'est au contraire une élévation. Voyez. La référence est Matthieu 19, versets 10-12 suivants. Mon histoire des... Vous savez, c'est l'évangile des eunuques pour le royaume. L'idée que... Il dit, c'est une histoire un peu étrange quand même. Il y a des eunuques de naissance, il y a des eunuques par accident, ça c'est la guerre, et puis il y a les eunuques volontaires. À titre personnel, je ne me retrouve pas très très bien là-dedans. C'est pas trop ma vie, ma voie spirituelle du célibat sacerdotal, mais ça, c'est un autre problème. Donc la virginité, ça n'est pas un abaissement de la femme, c'est au contraire son élévation. Mais je répète, ce n'est pas pour des questions de pureté. C'est plutôt pour des questions que la vie va pouvoir être vécue uniquement avec le Christ. De cette manière-là. Parce que dans la littérature paulinienne, la femme, c'est la figure de l'Église. L'Église est l'épouse du Christ. Mais c'est pareil chez Saint Jean. Dans l'Apocalypse de Saint Jean, vous avez la femme qui est l'épouse qui va se révéler totalement au monde. Alors, quel est le fondement de cette innovation? La virginité. Eh bien, c'est tout simplement le christocentrisme, c'est-à-dire le fait d'être centré sur le Christ. Alors, je vous donne encore la référence, c'est toujours chez Saint Paul, qui est Galates 3, 28. Encore un passage difficile. Nous lisons en Galates 3, 28. Ah voilà. Vous tous, en effet, je commence 27, baptisés dans le Christ, vous avez revêtu le Christ. Il n'y a ni juif, ni grec, il n'y a ni esclave, ni homme libre, il n'y a ni homme, ni femme, car tous, vous ne faites qu'un dans le Christ Jésus. Mais si vous appartenez au Christ, vous êtes dans la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Alors, ce que veut dire Saint Paul ici, dans cette énumération, ni juif, ni païen. C'est intéressant quand même, ni juif, ni païen, parce que quand même, juif, ça veut dire que je suis d'ascendance juive. Donc comment est-ce que je pourrais dire que je ne suis pas juif? Vous voyez? Ni juif, ni païen. Ni esclave, ni homme libre. Bah oui, mais enfin, la société antique, elle est fondée sur l'esclavage. Ça veut dire que quand Paul parle, il y a toujours des esclaves. Et d'ailleurs, combien de contemporains reprochent à Paul de ne pas avoir aboli l'esclavage? Il n'y a ni juif, ni païen, ni esclave, ni homme libre. Et qu'est-ce que nous dit l'autre? Il n'y a ni homme, ni femme. Alors, l'objet de Saint Paul, c'est de dire ceci. Les distinctions sociales ou politiques face au Christ n'ont pas beaucoup d'importance. Vous voyez? Face au Christ, les distinctions sociales ou politiques n'ont pas beaucoup d'importance. Ça, je crois que c'est un vrai sujet de réflexion dans l'Église, hein. Hier, sur ma vie, je vous raconte, je suis désolé. Là, j'ai vu cette pièce de théâtre qui raconte un ancien musulman d'origine algérienne raconte sa conversion. Il s'appelle Mehdi. Le spectacle s'appelle Coming Out. Intéressant ce qu'il raconte quand même. En disant que son arrivée dans l'église a commencé par le mettre dans une catégorie. Et que les chrétiens de n'importe quel genre qu'ils soient, je veux dire qu'ils soient progressistes ou traditionnalistes, peu importe, ont commencé par le mettre dans une catégorie. Que ce soit la catégorie du musulman, qui n'était plus, que ce soit la catégorie de celui issu des quartiers populaires de Saint-Étienne, contrairement à un christianisme français qui est quand même énormément bourgeois, etc., etc. Vous voyez, c'est pas notre pratique, enfin, c'est un vrai reproche hein, que je fais hein, pour le coup, c'est que notre pratique ecclésiale actuelle crée des catégories à l'intérieur de l'Église, en fait. Voilà. Mais bon, c'est comme ça, c'est pas facile. Alors que face au Christ, les distinctions sociales ou politiques n'ont pas beaucoup d'importance. Alors, à titre personnel, c'est ça que je trouve extraordinaire dans les communautés religieuses, parce que le port de l'habit fait que on n'est pas capable de savoir d'où sortent les gens. Et moi, je trouve ça extraordinaire. Puisque je ne commence pas par le mettre dans la catégorie ceci, ceci ou ceci. Bon, Bon, je le m'exprime de manière un peu vive, mais ça m'embête, à titre personnel, comme prêtre diocésain, lorsque les paroissiens s'adressent à moi sous prétexte que j'appartiens à telle catégorie. Parce que ça, je ne sais pas ce qui s'est passé, ça a sauté là. Oui. Alors, je reprends. Je disais juste que face au Christ, les distinctions sociales et politiques n'ont pas beaucoup d'importance. Et Saint Paul ose dire, face au Christ, la distinction homme-femme n'a pas beaucoup d'importance non plus. Alors, vous voyez pourquoi? Parce que la seule chose qui compte, c'est la relation au Christ. Donc, si vous voulez comprendre 1 Corinthiens 7 avec ses questions un peu alambiquées sur le mariage, la virginité et le remariage, c'est ça le critère, en fait. Le critère, c'est d'abord, est-ce que ma relation au Christ est sauvegardée ou pas? Parce que c'est ça le plus important. Du coup, dans le Nouveau Testament, tout un tas de femmes peuvent agir librement au nom du Christ. On les a surtout dans les Actes des Apôtres, hein, celles-là. Et là, vous retrouvez ça. Je vous mets les références, mais bon, ça, c'est un peu des femmes qui agissent. Mais après, comme je voudrais avancer un peu, en acte 1,14, vous avez des femmes assidues à la prière avec les apôtres. En acte 9, 36,41, vous avez la charité de Dorcas Tabitha. En acte 12,12, vous avez la mère de Jean-Marc qui. De sa maison le point de ralliement de tous les chrétiens. Et en acte 16, 14, 15, vous avez Lydie, la Thyatire, qui est négociante en tissu et qui finit par accueillir les apôtres. Voilà. Donc, mon raisonnement, c'est le Nouveau Testament invente la virginité. Dans le même temps, le Nouveau Testament affirme que face au Christ, il n'y a pas de distinction qui tienne. Bon, les conséquences, ça voudrait dire que. Si une théologie ou une pratique ecclésiale dit que la femme est mal partie pour le salut, ben c'est nécessairement contredit par le Nouveau Testament, vous voyez. Puisque face au Christ, il n'y a pas de distinction qui tienne. Voilà. Je ne sais pas pourquoi ça saute comme ça, mais voilà. Je reprends. Troisième point sur cet acquis du Nouveau Testament, c'est que le Nouveau Testament maintient la distinction de l'homme et de la femme. Alors que pour juifs et païens, l'histoire a fait que ça a complètement disparu, quasiment. Alors, petite première réflexion. Le maintien de la distinction, moi, me paraît important. Parce que, à partir de quoi est-ce que je fais l'unité? Si je fais l'unité à partir de l'identique, ben j'appelle pas ça une unité. J'appelle ça juste de l'identique. L'unité, je la fais à partir de la différence. Ça, c'est encore une vraie question. Avant, ça me déborde un peu de mon sujet, mais vous voyez, ça, c'est un vrai défi pour les communautés chrétiennes actuelles. Hein. La chance de toute paroisse, c'est de chercher à réunir les gens qui ne sont pas censés se fréquenter. Le drame, c'est lorsque des gens choisissent leur style de paroisse. Parce que dans ce cas-là, il se prive de la possibilité même de la rencontre, donc de l'unité. Voyez. Donc la distinction permet l'unité. Ça, c'est la base de la théologie du mariage. Hein. C'est parce qu'il y a une différence entre l'homme et la femme qu'il y a un mariage qui peut être un lieu d'unité très forte. Et si vous vous rappelez la théologie, c'est la base de l'union de la Trinité. C'est parce qu'il y a une différence très forte entre le Père et le Fils et l'Esprit Saint que je peux avoir une unité. Qui vaille quelque chose. Voilà. Alors, le maintien de la distinction se fonde sur l'ordre de la Genèse. On le voit en particulier dans la littérature paulinienne. Tout saute comme ça, c'est bizarre. Bon, de toute façon, je ne parle pas quand on est interrompu, mais je ne sais pas pourquoi ça s'interrompt comme ça. Je disais donc que ça se voit dans la littérature paulinienne, à tel point que Paul est crédité d'une certaine misogynie, vous savez. Alors, à ce sujet, je vous signale un petit livre remarquable qui montre que c'est faux. Paul a une très haute idée de la femme. Ça s'appelle Paul et les femmes. C'est écrit par Michel Quesnel. C'est paru en 2021. Quelque chose comme ça. Et pourtant, Saint Paul fait des restrictions. Par exemple, il impose à la femme le port de le voile dans l'église ou dans le culte. Où Saint Paul interdit à la femme d'enseigner. Alors ça, c'est des choses qu'on va retrouver dans l'histoire. Quand on regardera quelques éléments des femmes médiévales, on verra que les femmes intellectuelles du Moyen Âge ou du début de l'époque moderne commencent toujours par expliquer qu'elles n'enseignent pas. Parce que c'est réservé aux hommes, sur la base de Saint Paul. De fait, le port du voile dans les églises était la norme, me semble-t-il, jusque dans les années 1950 ou 1960, en Europe occidentale. Alors, une fois qu'on a touché à ça, c'est nous fait toucher quelque chose d'objectivement difficile. Et c'est le dernier point que je voudrais faire avec vous ce soir, guise d'introduction. Je vais un peu sortir de la Bible et rentrer dans des problèmes beaucoup plus d'ordre historique. Parce que voyez-vous, pourrait dire, lorsque Paul demande aux femmes de porter un voile à l'intérieur de l'Église, ce n'est pas une question de foi, c'est une question culturelle. Et la preuve que c'est une question culturelle, c'est qu'aujourd'hui, on s'accommode très bien de l'absence des femmes voilées à l'intérieur de l'Église. Et alors c'est là que ça devient très difficile. C'est comment je fais pour discerner ce qui est que culturel et ce qui est fondamental. Vous voyez ce que. Je ne sais pas si vous sentez le problème en fait. Parce que une fois qu'on a dit, ok, il faut assurer la relation de Christ, moi je suis d'accord. Il faut maintenir une distinction, je suis d'accord. Mais si je cherche à préciser, comment je fais? Donc la vraie difficulté en la matière, c'est que le monde antique n'est pas un monde uniforme. Alors ça, c'est le premier point du coup sur cette question culturelle. Le monde antique n'est pas un monde uniforme. Enfin, à tel point d'ailleurs que dire la place de la femme dans l'Antiquité, ça n'a pas de sens. Et ça se voit en fait dans le Nouveau Testament. Parce que selon les endroits où vous habitez, il y a des choses très différentes qui se passent. Alors, je vais dresser le tableau de manière un petit peu caricaturale. Mais disons, le monde grec. Alors, le monde grec, c'est pour moi tout ce qu'il y a, disons, de l'Albanie actuelle jusqu'à l'est de la Méditerranée, Turquie comprise. Le monde grec est globalement une société patriarcale fermée. Mais ça, c'est le monde grec. Ne l'étendez pas ailleurs. Juste le monde grec. Le monde grec est une société patriarcale fermée. Et ce monde-là ne reconnaît guère à la femme la capacité à exercer des responsabilités. Sauf vraiment exception. Donc, quand vous êtes en Grèce, la femme est priée de rester à l'intérieur de la maison. Si elle est riche, elle est priée de ne pas se montrer dehors, mais d'envoyer ses servantes faire le marché. Mais quelque chose de cet ordre-là. Quand vous êtes dans un monde comme ça, l'idée qu'une femme puisse être compagnon des apôtres est une idée proprement révolutionnaire. Enfin, ça dépend d'où vous partez, en fait. Vous voyez? Je pense que pour tout le monde, tout ça, ça ne nous parle pas beaucoup, en fait. Mais quand vous êtes dans un monde où la place de la femme est vraiment à l'intérieur, dire qu'une femme peut être à l'extérieur, c'est proprement révolutionnaire. Je vous évoque à ce sujet une expérience de la Terre Sainte, où j'ai vécu pendant un an. Dans la Jérusalem Est, donc la Jérusalem Est, c'est la Jérusalem arabe. C'est très facile. Si une femme est dans la rue, c'est qu'elle n'est pas musulmane. D'ailleurs, c'est les hommes qui font les courses. Parce que faire une course, ça veut dire aller dans la rue. Donc la question, vous voyez, de la présence de la femme dans l'espace public est déjà une question qui, dans le monde antique, n'est pas du tout unifiée. Donc ça, c'est quand je suis dans le monde grec. Quand je suis dans le monde hellénistique, alors là, je distingue grec et hellénistique. Je vais peut-être l'écrire, parce que ce sera plus simple. Donc grec, c'est Grèce continentale. Et Asie mineure, donc Asie mineure, c'est l'actuelle Turquie occidentale. Hellénistique, c'est les pays hellénisés. Donc, ça vous donne l'Égypte, ça vous donne la Syrie, l'Arabie, ce genre de choses. Là, on est dans une situation intermédiaire, globalement. Intermédiaire, ça veut dire que la femme peut exercer un pouvoir dans la société. Prenez des exemples connus, hein, Cléopâtre. Cléopâtre, les femmes de Ptolémée, exercent autant de pouvoir que son mari Ptolémée. Bien des cas un petit peu étranges de. En Asie mineure, enfin pas en Asie mineure, mais dans les pays hellénistiques, où l'on a des femmes qui sont reines. Donc ça veut dire que dans ces pays-là, la question de savoir si la femme peut commander ou pas commander ne se pose pas de la même manière quand vous êtes en Grèce continentale. Et tout ça à la même époque. Et puis il y a la situation de très loin, la plus libérale, Rome. À Rome, la femme peut demander le divorce, ce qu'elle ne peut pas faire en Grèce ni dans le monde hellénistique. Si un jour vous avez envie de vous amuser, je vous invite à lire les quatre passages du Nouveau Testament qui parlent du divorce. Et vous vous rendrez compte que les quatre ne partent pas de la même situation de la femme. Parce qu'il y en a pour qui seul le mari peut demander le divorce. Et puis il y en a un pour qui la femme peut demander le divorce. Eh bien, celui pour qui la femme peut demander le divorce, ça veut dire qu'on est à Rome ou dans une société romaine. Tout simplement. Parce qu'en Grèce, ça serait inimaginable. Mais tout ça à la même époque. À tel point d'ailleurs que la femme romaine, pour un Grec, c'est absolument épouvantable. On la voit dans la rue, elle commande, elle demande le divorce, elle possède de l'argent, enfin c'est épouvantable. Alors que la femme grecque est modeste à l'intérieur. Donc des distinctions culturelles qui sont assez fortes. Et alors si je vais dans le monde germanique, parce que le problème de l'histoire de l'Église, c'est que les Germains, ils arrivent. Voyez, on est entre Grecs jusqu'au 3e siècle. Mais à partir du 4e siècle, on a l'arrivée des sociétés germaniques. Et ben dans le monde germanique, on est dans le monde de la femme libérée. Et ça se voit d'ailleurs dans la mythologie germanique, qui est assez instructive de ce point de vue-là. Parce que dans la mythologie gréco-romaine, la femme, les déesses, sont d'abord du côté de la régulation des hommes. Vous voyez le rôle de Junon ou d'Héra, c'est d'empêcher Jupiter ou Zeus de faire n'importe quoi en permanence. Dans la mythologie germanique, c'est un petit peu différent, puisque la mythologie germanique est au moins autant féminine que masculine. D'ailleurs, le dieu de la guerre chez les Germains, c'est une femme. Ce qui veut dire que pour un Germain, la répartition des rôles du masculin et du féminin n'est pas exactement comme pour les Gréco-Romains. Et pourtant, vous voyez, ce sont les hommes qui font la guerre. Mais il n'en reste pas moins que le dieu de la guerre est une femme. Si vous voulez savoir comment elle s'appelle, il suffit de savoir dire vendredi en anglais et en allemand. Elle s'appelle Freier. Ce qui veut dire que pour les Germains, le vendredi, c'est le jour de la guerre. Bon, peu importe. Alors, ces distinctions se voient en particulier dans l'histoire de l'Église ancienne avec l'histoire du monachisme féminin. Moi, je suis assez frappé que dans l'Église ancienne, le monachisme, c'est d'abord une histoire d'homme, en fait. Surtout en Orient. Mais c'est encore vrai aujourd'hui. En Grèce, il y a très peu de monastères de femmes. Dans le monde orthodoxe, de manière générale, il y a très peu de monastères de femmes. Ça veut dire que le monde orthodoxe fait de la femme essentiellement la mère et l'épouse. Ce que le monde latin n'a pas fait, puisqu'il a inventé le monachisme. Alors pourquoi ça? Ben parce que quand vous êtes en Orient avec la femme qui est censée être à la maison, c'est évident qu'on ne peut pas imaginer un monastère de femmes. Puisque imaginer un monastère de femmes, ça veut dire imaginer des femmes qui vivent entre elles et qui ne seraient pas sous la tutelle d'un homme. Ça voudrait dire imaginer des femmes qui seraient complètement autonomes au niveau financier. Parce que bon, les histoires de monastères, c'est quand même aussi des histoires financières, puisqu'il faut vivre. Bien, en Orient, ça, c'est difficile à imaginer. Et c'est encore vrai aujourd'hui. Et l'islamisation du Proche-Orient et de la Turquie a accentué le phénomène. En tout cas, moi, je suis vraiment assez frappé que le temps que j'ai passé en Terre Sainte, la présence religieuse féminine majoritaire est latine, en fait. Et parce que culturellement, ce n'est pas possible pour un oriental. Ou c'est difficile. D'ailleurs, on a des témoignages dans l'Église antique que les femmes qui voudraient absolument devenir anachorètes, vous savez, les anachorètes, c'est ceux qui me... C'est les ermites, disons, solitaires. Les femmes qui veulent absolument devenir anachorètes, en fait, finissent par s'habiller en homme. Parce que sinon, on les renverrait chez elles. Alors ça, c'est une manière de créativité comme une autre, mais bon, si je puis dire. Les deux premiers monastères féminins connus dans l'histoire antique ont été fondés par des vierges romaines, comme par hasard. Vous voyez la distinction entre l'Orient et l'Occident. Je donne leur nom, elles s'appellent Paula et Mélanie l'Ancienne. Mélanie l'Ancienne, il ne faut pas la confondre avec sa fille qui s'appelait Mélanie la Jeune. Enfin, pas sa fille, pardon, sa nièce. Et Mélanie la Jeune, c'est celle qu'on a dû en parler, je crois, il y a 2 ans, parce que c'est elle qui a fait faire des travaux monstrueux au Saint-Sépulcre. Voilà. Mais elle finit du coup par s'installer en Terre Sainte. Alors ça, c'était pour la dimension géographique. Mais alors, vous voyez, cette dimension géographique, on va la voir tout le temps. On ne pourra jamais dire qu'on sera dans un monde tellement unifié que ça ne marchera plus. Alors, je ne parlerai pas des mondes extra-européens parce qu'en fait, je ne les connais pas. Vraiment pas du tout. Mais il faut bien comprendre que si vous voulez réfléchir sur la place de la femme dans l'Église, il faudra que vous teniez compte de la totalité de la culture. Et pas juste de l'Allemagne ou de la France, mais aussi de là où on en est dans tous les pays du monde. Bon, à titre personnel, ça me frappe toujours que lorsqu'on accueille un confrère qui vient d'Afrique ou des Antilles, non francophones, enfin non, qui ne sont pas des départements d'outre-mer, genre Haïti, etc., ça me frappe toujours de ce que la première chose qu'on doit faire, c'est lui apprendre à utiliser une machine à laver, à faire la cuisine, etc. Alors que aujourd'hui, la plupart des hommes qui ont 20 ans savent faire la cuisine. Mais vous voyez, là, on est sur des questions culturelles. Je ne suis pas sûr que ce soit des questions de cléricalisme, je pense que c'est d'abord des questions de répartition d'hommes et de femmes. Bon, je fais réfléchir à ça en dehors de l'Église, mais vous voyez, moi, j'ai été quand même assez frappé pour avoir déjà été invité dans des familles congolaises en banlieue parisienne, de réaliser que ces familles congolaises vivaient d'une manière que j'aurais jamais imaginé moi vivre. À savoir que les femmes étaient priées de rester à la cuisine, de faire le service à table, pendant que les hommes discutaient entre hommes. Les familles françaises, c'est pas trop comme ça, en fait. Voyez, mais du coup, ce que nous, on vit aujourd'hui à l'échelle mondiale, avec des différences culturelles assez fortes, il faut que vous imaginiez qu'à l'époque antique, c'est pareil, en fait. Où on a les Orientaux, les Latins et les Germains. Que lorsqu'on sera au Moyen-Âge, au Moyen-Âge, ça sera la semaine prochaine, ça sera pareil. On aura les Latins, les Germains. Que quand je passerai au Moyen-Âge central, eh bien, on aura le même problème. J'aurai la Méditerranée islamisée, qui aura vécu assez fortement la transformation de la société musulmane, et de l'autre côté, des pays du Nord qui fonctionnent très différemment. Ce qui est vrai de la chronologie, de la géographie est également vrai de la chronologie. Alors ça, c'est encore une vraie difficulté. C'est que nous, on aimerait bien décrire on aimerait bien décrire les choses de manière linéaire. Ben, ça ne marche pas. Vous voyez, par exemple, ça nous arrangerait bien de pouvoir dire l'Europe avait faisait la guerre et elle a appris à ne plus faire la guerre et maintenant c'est la paix. Ben, ce n'est pas vrai. D'abord, parce que si on pense ça veut dire qu'on pense que la Serbie et la Croatie ne sont pas en Europe. J'ai quand même toujours été très frappé qu'on parle de paix en Europe après 1945, alors qu'il y a une guerre à 1 000 km de chez nous, en Croatie et en Serbie, qui est absolument épouvantable en 1993. Vous voyez? Même si nous, ça ne nous concerne pas, puisqu'on était bien au chaud chez nous, voilà. Mais bon, ce qui est vrai, vous voyez, pour la question de la guerre, c'est vrai en fait pour tous les sujets historiques. Je ne sais pas pourquoi, par exemple, on est convaincu que l'hygiène, c'est une histoire d'une croissance. Non, ce n'est pas vrai. Le XIVe siècle est largement plus propre que le XVIIe siècle. Il suffit de lire les textes, dans les textes du XIVe siècle, il y a des salles de bain partout. Quand vous êtes au XVIIe, on arrête de se laver, on a remplacé le bain par le parfum. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il ne faut pas imaginer l'histoire en étant linéaire. C'est plutôt des acquis qu'on perd et qu'on retrouve. Mais ça, c'est vrai sur tous les sujets. Donc, il peut y avoir des moments de durcissement pour une raison ou une autre, des moments, au contraire, de réel progrès pour une raison ou une autre, mais un progrès, il n'est jamais acquis. Bon, ça, c'est mon dada, mais c'est de dire, en fait, chaque génération doit réapprendre. Enfin, prétendre qu'on a gagné un jour, c'est raté. Enfin, pour moi, ça, c'est peut-être le sujet principal sur l'erreur de la transmission de la foi. Si la foi n'a pas été transmise dans les années 1970 et 1980, c'est précisément qu'on a cru que c'était acquis. Alors qu'en fait, ça ne peut pas l'être, puisqu'à chaque génération, il faut recommencer. À chaque fois, il faut recommencer. Alors, la dimension chronologique veut dire que l'histoire des femmes dans l'Église n'obéit pas au mouvement assujettissement, libération. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Alors, si vous avez compris, moi j'arrive dans un moment où le sujet devient juste impossible. Puisque la géographie est morcelée et la chronologie n'est pas linéaire. Du coup, dans ce cas-là, on atteint la limite de l'histoire. Puisque je ne pourrais pas vous donner une intelligence en disant, bah, finalement, voilà la ligne qu'on peut dessiner. Ou seulement peut-être de manière ponctuelle. Alors, voilà pourquoi moi j'ai choisi de faire des sondages ponctuels. En prenant quelques cas, en essayant de varier quand même un peu les mondes culturels et de varier un peu les sujets. Je vais commencer par les exemples médiévaux et l'arrivée des Germains. Parce que l'arrivée des Germains, c'est un cas d'école. Vous voyez arriver une société qui fonctionne complètement différemment des Romains. Et ils sont christianisés. Et alors, comment on fait? Est-ce que la christianisation doit leur demander de la romanisation? Ou est-ce qu'au contraire, il y a des choses qu'on invente? J'anticipe un peu sur la semaine prochaine, mais moi je suis fasciné sur l'inventivité d'une église germanique. C'est eux qui inventent la liturgie telle qu'on la connaît. Sinon, on continuerait à célébrer à la manière des orientaux. Ça veut dire que la christianisation du monde germanique a entraîné une véritable transformation du christianisme dans le même temps. Et tant mieux. Et tant mieux. Et dans le même temps, il y a une certaine romanisation. Donc voilà, je ferai quelques éléments voilà, à partir de quelques figures. Ensuite, je le ferai au Moyen-Âge central, ce que j'appelle des femmes de pouvoir. Parce qu'au Moyen-Âge central, on a des femmes qui exercent le pouvoir d'une manière ou d'une autre. Et puis après, on fera des choses plutôt sur les 16e et 17e siècles, sur les raidissements ou les inventivités en même temps, parce que ça va ensemble. Alors, est-ce que sur ce que j'ai dit ce soir, il y a des réactions, des questions, des demandes d'éclaircissement?
J'avais une remarque, une question. Quand vous dites on ne peut pas parler de la femme enfin, des femmes sans considérer toutes les situations dans le monde, effectivement, on voit bien aujourd'hui, même par les mouvements qui existent sur la question de certaines femmes opprimées plus que d'autres, on voit bien que tout ça, c'est différent. Mais dans le cadre de la question des femmes dans l'Église, si on s'en réfère au moment que nous vivons, par exemple aujourd'hui, avec la question de la synodalité, j'ai quand même le sentiment que le magistère ouvre la porte justement à cette possibilité de différenciation selon le lieu où nous sommes, quoi. C'est-à-dire, en gros, on pourrait peut-être parler par continent, quoi. Parce que de fait, la situation de la femme, ça n'existe pas, c'est toujours les femmes, des femmes, et puis après, même déjà par continent, c'est peut-être encore compliqué, quoi. Donc, en soi, ce serait complètement mythique, je pense, de pouvoir embrasser toute la situation des femmes dans l'Église, non?
Oui, mais dans le même temps, il y a une difficulté parce que si vous commencez à mettre des frontières en disant à tel endroit c'est comme ci, à tel endroit c'est comme ça, vous poserez immédiatement le problème de qu'est-ce qui se passe quand les gens se déplacent. Et là, vous touchez du doigt la base du schisme entre catholiques et orientaux. Parce que c'est comme ça que ça s'est fait. Au sens où un catholique et orientaux, je parle notamment de la querelle du filioque, ont évolué de manière différenciée. Et c'est le moment où les pèlerins sont arrivés, se sont installés à Jérusalem et ont commencé à prier le credo selon leur forme à eux, que ça a commencé à faire la guerre avec les orientaux. C'est-à-dire que dans le système d'avant, c'est un petit détour pour dire que dans le système avant, c'est je prie là dans le monde où je suis, tel que je suis. C'est-à-dire, si je vais en Occident, ben, je prie avec les Occidentaux comme prient les Occidentaux, selon la liturgie occidentale. Si je vais en Orient, je prie en Orient avec les Orientaux comme ils prient. La question, c'est, à partir du moment où je pose la question en disant oui, mais est-ce qu'ils ont évolué de la bonne manière? Ou est-ce qu'ils sont restés dans la. Est-ce qu'ils restent encore complètement unis à nous? C'est-à-dire qu'à partir du moment où je commence à admettre les différenciations, alors moi je ne suis pas pape, je suis pas, j'en sais rien, mais je dis, la seule question c'est qu'à partir du moment où j'admets la différenciation, il faut que je me trouve le moyen d'assurer l'unité. C'est le problème principal qu'on a dans les paroisses françaises actuelles. C'est que si Parce que si, le risque, du coup, c'est de dire, ah ben oui, mais moi, je tiens absolument à ce que ce soit comme ci ou comme ça. Du coup, je vais aller dans l'endroit où ça sera comme ci ou comme ça. Et dans ce cas-là, j'ai perdu en communion. J'ai perdu en unité. Vous voyez, que l'on puisse ne pas raisonner de manière générale, oui, mais il faut faire attention, parce que c'est le problème de tous les textes magistériels. Tous les textes romains s'adressent au monde entier. Et ils partent de situations, du coup, très différentes selon les uns et les autres. La chance que j'ai eue en étant formé à Rome, c'était en fait exactement ça. C'est d'avoir pour voisins d'amphithéâtre des gens qui venaient du monde entier. Et de réaliser que les textes ne résonnaient pas de la même manière parce qu'il y avait des questions culturelles qui pouvaient être en jeu, en fait. Là, voilà. Alors, quand je dis ça, c'est que dire que la place de la femme, ce que je veux dire, c'est que moi, je ne cherche pas à résoudre les questions dogmatiques ou disciplinaires. C'est pas, je n'en ai pas la compétence et ce n'est pas le lieu. Je dis justement, simplement, que si je parle des femmes dans l'Église, je suis obligé de tenir compte de vraies différences culturelles. Alors après, si vous voulez raisonner sur le monde contemporain, vous êtes obligé de tenir compte du fait que notre monde contemporain est un monde multiculturel. Et si, par exemple, la société française à l'heure actuelle, je le dis peut-être de manière plus dure que je le pense réellement, est en train d'exploser ou d'imploser, c'est à cause de ça. Parce que chaque monde voudrait être la totalité à lui tout seul, sans tenir compte de ce qu'il y a par ailleurs. Mais je crois que si on ne veut pas se transformer simplement en des petits archipels qui fonctionnent entre nous, il faut admettre la relation avec l'autre. Et si j'admets la relation avec l'autre, je suis obligé, à un moment ou à un autre, de réfléchir en fait à cette unité. Je ne sais pas si je réponds à votre question, mais la question de l'unité, elle est quand même importante.
Oui, ce que vous dites sur l'unité, c'est très intéressant. En même temps, ce que vous dites là, ce serait bien, mais ça dépasse la question de la femme dans l'Église, ce serait bien que ça s'applique aussi sur la question des hommes dans l'Église, mais du clergé, par exemple. Mais bon, c'est une autre question. Mais j'entends ce que vous dites et oui. Pour l'instant, oui. Ça me va, on peut dire.
Après, ce qu'il faut voir, c'est que la difficulté, moi, de mon sujet, c'est d'examiner ce qui est un non-sujet historique. Au sens où la place, mise à part, disons, elle n'est pas questionnée comme telle. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des moments où on sent qu'il y a des tensions, qu'on sent qu'on est à la limite, mais on n'a pas de... En fait, notre société contemporaine est pétrie par l'idéalisme allemand du 19e siècle. Et l'idéalisme allemand pose toujours la question des fondements de ce qu'on fait. Alors qu'avant le 19e siècle, ce n'est pas tellement une question qui se pose. On fait, on exploite les opportunités, mais on passe pas, on ne développe pas le métadiscours, si je puis m'exprimer ainsi. Voyez, alors que nous, on est dans une société qui en permanence pose la question et qui fait que du coup, dès qu'on dit quelque chose, on est facilement accusé parce qu'il y a des mots écrans, parce qu'il y a des réalités. Voilà. C'est pour ça que moi, je préfère la méthode expérimentale, en tout cas pour une approche historique. Elle ne prétend pas dire « voilà comment l'Église a toujours résolu ». Elle prétend plutôt dire « dans une situation donnée, on a inventé ça, on a fait comme si ». Et parfois, ce qui est intéressant, ce serait peut-être si j'avais qu'une seule thèse, je ne sais pas, ce serait peut-être celle-là, ce serait de dire « ce qui est étonnant, c'est que on a un cadre, mais on s'autorise largement à en sortir ». Voilà. Alors que ma conviction, mais là, peut-être que là, je m'exprime comme prêtre, peut-être trop, mais ma conviction, c'est que si je raisonne en termes de privilège, je risque fort de rentrer dans une impasse. Parce que je raisonne sur ce qui est indu et non pas sur ce que l'esprit me demande de faire ou me pousse à faire. Voilà. Je vous raconterai ça dans 3 semaines, mais pour moi, Marguerite Nazot et Saint-Vincent de Paul, c'est vraiment quelque chose de sidérant quand on veut bien y songer, à cause de ça. Les spirituels modernes du XVIIe siècle sont sidérants de ce point de vue-là. Là, ils sont tous accompagnés d'une femme. Tous. Qui leur fait faire des progrès spirituels monstrueux. Et parfois, en inventant des choses qu'on n'aurait pas imaginées. Mais bon. Après, je peux comprendre quand même que les demandes d'une, que les questions d'une société varient. C'est pour ça que le détour par le XVe siècle sera important. Parce qu'au XVe siècle, la société du XVe siècle demande des choses qu'une partie de l'Église a été incapable d'entendre. De fait. Mais bon. Mais c'est pas simple, mais ça fait réfléchir. Est-ce que il y a une autre réaction? Non, eh bien, dans ce cas-là, on va peut-être mettre fin pour ce soir et on se donne rendez-vous même heure la semaine prochaine et je vous donnerai peut-être un dossier de texte dans la semaine. Je signale quand même, vous le connaissez peut-être déjà ce livre, mais qui est quand même intéressant, les deux ouvrages d'Anne-Marie Pelletier sur la question. Vous avez « Le christianisme et les femmes » pas plus récent, mais pas non plus ancien. L'autre qui est « L'Église et le féminin », qui est plus récent. Ça se lit facilement, c'est stimulant. Voilà. Je vais réfléchir. D'accord. Et bien sur ce, je vais vous souhaiter à chacun une bonne soirée et une bonne semaine.
Merci.
Merci beaucoup.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Merci.